Et voilà la revue de presse internationale. Thibaut Cavaillès, bonjour.
Bonjour Guillaume.
Ce matin, cette revue de presse internationale est largement consacrée aux attaques qu'a connu le Sri Lanka hier, des attaques qui font replonger les Sri Lankais dans un passé qu'ils croyaient révolu.
Ils en avaient assez et pensaient que l'horreur était derrière eux. La guerre civile, séparatiste tamoul contre État, majoritairement cingalais. Un conflit initié au début des années 70 et terminé il y a 10 ans. En tout, 70 000 morts, 140 000 personnes portées disparues. Et donc hier, l'horreur qui frappe 4 hôtels et 3 églises, 8 explosions dans différentes villes de l'île, 290 morts, bilan provisoire, et des Sri Lankais horrifiés comme cette habitante de la capitale, Colombo. Elle s'appelle Jenani Fernando.
J'ai 42 ans et la guerre a fait partie de toute ma vie d'adulte. Et je pensais que c'était terminé, que mes enfants allaient vivre quelque chose de mieux que ça. J'ai l'impression d'avoir fait un saut en arrière de 30 ans. Qui veut nous entraîner dans le passé alors que nous, nous voulons aller de l'avant?
Qui, demande Jenani, qui pour s'attaquer à la minorité chrétienne sri-lankaise, 10% de la population? Alors pour l'instant, pas de revendication, mais déjà 13 hommes arrêtés et un groupuscule souvent cité, le NTG, le National Truth Heath Jamas, islamiste basé en Inde. Une note des services de renseignement prévenait les autorités il y a 10 jours d'une possible attaque perpétrée par ce groupe, ce qui met en colère le quotidien sri-lankais The Island, anglophone. 10 années sans attentat terroriste auraient apparemment amené les autorités à un faux sentiment de complaisance. À certaines occasions, elles sont allées même jusqu'à ridiculiser ceux qui les ont exhortés à rester vigilants et à accuser ces derniers d'essayer de faire dérailler le processus de réconciliation. Un autre quotidien anglophone sri-lankais complète en un titre, les échecs des services de renseignement et le laisser-aller entourent les attentats suicides les plus meurtriers du Sri Lanka. Non loin de là, l'Inde, signalons que 4 Indiens ont perdu la vie dans ces attaques. Le quotidien The Hindu cite Radhika Kumaraswamy, cette sri-lankaise qui fut secrétaire générale adjointe des Nations Unies. « Nous sommes choqués, dit-elle. Nous pensions que le Sri Lanka avait mis la violence derrière lui et progressé vers un développement et une réconciliation. Mais nous sommes de retour aux questions existentielles confrontées à des menaces existentielles. » Radhika Kumaraswamy, peu optimiste, ces attaques, prédit-elle, montrent que le conflit ethnique au Sri Lanka est de nature insoluble et qu'il n'a pas été fait suffisamment pour la réconciliation ou les perspectives de paix à long terme. Alors on se tourne vers la presse britannique, l'ancien colonisateur de l'île de Ceylan et The Guardian qui énumère les possibilités dans la mesure où les attentats n'ont pas encore été revendiqués. Daesh, Al-Qaïda, présent dans la région, ou bien des extrémistes bouddhistes cingalais. Le ciblage, avance également The Guardian, le ciblage presque simultané d'hôtels de luxe à Colombo, fréquenté par les touristes étrangers, laisse penser que ces attentats suicides pourraient être le produit d'une hostilité anti-occidentale ou anti-gouvernementale ou bien encore d'une haine née du fanatisme religieux. Dernière hypothèse, et The Guardian poursuit alors la pensée de l'ancienne secrétaire générale adjointe de l'ONU, une autre possibilité est que l'attaque soit destinée à dramatiser le 10e anniversaire le mois prochain de la fin de la guerre civile entre les forces gouvernementales et séparatistes tamouls dans le nord du pays. The Guardian qui est plutôt d'accord avec ce que dit The Island, cité plus tôt, sur, je cite, cet échec global du pays à accepter son passé violent. Il reste beaucoup d'amertume et de griefs et pour certains, la guerre est une affaire inachevée, explique le journal qui cite un rapport de l'ONU. En juillet dernier, l'organisation internationale estimait en effet que les progrès accomplis au Sri Lanka en faveur d'une justice transitionnelle s'étaient pratiquement arrêtés. Cette justice, rappelons-le, instaurée dans des pays qui sortent d'une guerre ou d'une dictature est censée réparer et réconcilier les différentes parties opposées.
Et alors, rappelons-le Thibaut, ces attaques terroristes ont eu lieu un dimanche de Pâques à l'échelle mondiale, ça n'est pas une première.
C'est la Stampa qui nous rappelle que cette fête chrétienne a déjà été la cible d'attaques. En Égypte, avril 2017, dimanche des rameaux, deux kamikazes de Daesh qui dans deux églises du pays ont causé la mort de 45 personnes. Au Pakistan, mars 2016, en pleine vacances de Pâques, rappelle le quotidien italien, 75 personnes dont de nombreux enfants tués lors d'un attentat suicide dans un parc bondé de Lahore, attentat revendiqué par des talibans. Ou encore au Nigeria, avril 2012, attentat à la voiture piégée près d'une église de Kaduna, dans le nord du pays. 41 personnes tuées, les islamistes de Boko Haram sont soupçonnés. La Stampa qui par ailleurs relaie les mots du pape hier dans sa messe à la ville et au monde depuis le Vatican. François qui exprime sa proximité affectueuse à la communauté chrétienne et à toutes les victimes de cette violence cruelle. mais aussi la Stampa qui nous donne la réaction du cardinal archevêque de Colombo, la capitale sri-lankaise. Il a des mots qui peuvent surprendre de la part d'un homme de foi. Les responsables des attaques doivent être punis sans pitié, car seuls les animaux peuvent se comporter de cette manière.
Et puis enfin, on s'intéresse à l'Ukraine, également ce matin avec Thibault. Un score impressionnant pour un acteur, tandis qu'un autre acteur s'installe dans ce studio, Jacques Weber, bonjour.
Bonjour.
Un score impressionnant pour un homme qui désormais ne va pas trop rigoler.
Volodymyr Zelensky a remporté hier l'élection présidentielle en recueillant 73% des voix. Jusque-là, humoriste donc et homme de télévision, désormais attendu au tournant. Le journal ukrainien Den, Le Jour, prévient, dans les conditions aussi difficiles dans lesquelles se trouve l'Ukraine, sur le plan politique, économique et sécuritaire, relever les défis en l'absence d'expérience politique sans démarche ni stratégie spécifique peut en être un de plus de défis. Les électeurs ayant fait leur choix, il est maintenant important de surveiller le nouveau pouvoir, poursuit le quotidien sur son site. Alors qu'en dit la presse russe ? On se souvient du conflit avec l'Ukraine. Le site français de Russia Today, Pro-Moscou, relève que Zelensky s'est peu exprimé sur la politique étrangère, mais s'est notamment dit confiant dans la recherche d'une solution pacifique, diplomatique avant tout, au conflit dans le Donbass, on rappelle le quotidien les républiques autoproclamées de Lugansk et Donetsk tiennent toujours tête à l'armée régulière de Kiev. Citons enfin la Neza Vizimaya Gazeta, la gazette indépendante, quotidien de gauche russe, qui refuse, et c'est important de le signaler, toute aide financière de l'État. Le journal cite un philosophe ukrainien, Sergei Datsyuk. Le deuxième tour des élections a marqué la contestation de la société contre le système. Conclusion, estime-t-il, l'Ukraine s'est engagée dans la voie de changements incohérents et inconsistants. Il faudra ces prochaines semaines, Guillaume, voir si avec un clown, c'est Zelensky lui-même qui se qualifie ainsi, si avec un clown à la tête de l'Ukraine, l'avenir, malgré tout, donc, sourit au pays.